Je pense beaucoup à la notion d'éducation de la pensée.
Si jamais il y a un but que je poursuis, c'est la singularité.
Essayez toujours de se cultiver, de se frotter au savoir des autres.
Beaucoup travailler.
Le musée SACEM présente Dans la peau d'un auteur, un podcast écrit, réalisé et présenté par Sandra Bechtel.
Qu'il soit compositeur ou parolier, émergent ou confirmé, dans l'ombre ou la lumière, chaque auteur porte en lui une musique singulière, au rythme unique qui résonne. Comment déchiffrer un auteur ? Peut-être comme une partition, avec méthode, patience, désir et précaution. C'est ainsi que nous allons nous glisser, aujourd'hui mardi 24 avril 2018 à Nogent-sur-Marne, dans la peau de Shirley Soignon, une humoriste sérieusement drôle, à la langue incisive. Bienvenue dans l'intimité de son jardin public.
Alors, donc, nom, prénom, on sait. Mm-hmm. Soignon Shirley, est-ce que t'as un pseudo ?
Non.
Non ?
Non. Enfin, un petit dans la vie, mais pas dans les amis.
On va pas aller tout de suite. Pas de pseudo. Est-ce que tu peux me définir précisément l'intitulé de ton métier ?
Maurice de stand-up.
Ok, super. Est-ce que tu es membre de la SACEM ? Mm-hmm. Ouais, tu sais depuis quand ou pas ?
Depuis, si je me souviens, 2012, je dirais, ou 2012, je dirais.
Ok.
Ouais.
Ton nombre d'années de carrière ?
De carrière, on entend quoi par carrière ?
Quand carrière, on va dire, l'argent. Pas quand t'as fait une figure pour une pub Danone, mais genre, enfin carrière, même pas l'argent, quand est-ce que vraiment t'as écrit et tu t'es produite et tu t'es dit c'est mon métier, quoi.
Ah oui. Dans ce cas-là, dès le début, ça va faire 10 ans.
Ok.
Dès que j'ai commencé les premières scènes, quoi.
D'accord. Est-ce que tu as un signe particulier ?
Le troisième œil égyptien. C'est un signe.
Ok.
C'est un symbole.
Ouais.
C'est ça, non, je réponds à la question.
En fait, tu réponds comme tu veux. Si pour toi, c'est ton signe particulier, en plus, je ne
connais pas œil.
Du tout, donc ça m'intéresse. Troisième œil. Bon, on n'a pas le temps de développer, c'est pas grave, je te demanderai plus tard.
Le troisième œil égyptien, c'est une représentation en fait d'une partie dont j'ai oublié le nom, du cerveau.
Ouais.
En fait, enfin ça, on s'en est rendu compte bien après. Mais en fait, c'est un symbole égyptien qu'on retrouve aussi dans d'autres civilisations et qui en fait symbolise simplement l'ouverture sur un monde non visible.
Peux-tu me dire une chose ? Alors, j'entends par chose ce que tu veux. Personne, lieu. Plat régional, couleur, sentiment, endroit, que tu aimes. Quelque chose que tu aimes.
Quelque chose que j'aime, la tchéké.
Ouais. La tchéké.
C'est une semoule
la
de
base.
Manioc.
Oui, oui, je sais. J'en ai dans le sang, je pense.
D'accord.
Du coup, une chose que tu adores.
Une
encore
chose...
plus que la tchéké.
Difficile, hein, ouais. L'adoration chez moi. Non, j'adore pas les choses.
C'est pas. Vrai ?
Non. Non. Je peux adorer les filles avec qui je suis un temps, quoi, mais genre un temps. Il n'y a pas une adoration sur
oui, pas idolâtrer, hein.
Non, ouais, une adoration.
Adorer. Ouais. C'est vraiment qui... Mais, je vais marquer les filles un certain temps, alors.
Hein, c'est très bien. J'ai une réponse parfaite.
On ne saura pas combien
Elle
de temps.
Elle me va bien.
Impeccable.
Et combien de filles, non plus.
c'est parfait. du coup, ce que tu n'aimes pas ?
Ce que j'aime pas... ce que je n'aime pas.
Les mêmes filles un certain temps. Non, c'est
cool. Aussi, c'est l'autre temps du coup. Ce que je n'aime pas. Mm-hmm. Parce que, faire une réponse de Miss France, quoi. C'est pas la guerre. Mais.
La guerre, c'est mal, tu veux dire.
Bah, la guerre, c'est très mal.
C'est pas bien.
C'est très, très mal. Mm. C'est. Non, c'est ça le truc, c'est que même ça, je sais pas que je ne l'aime pas, quoi. Je l'accepte vraiment comme un événement. Tu vois, la violence. Négativité, etc. Donc je sais pas que je n'aime pas. Donc je dirais que je n'aime pas, on va parler de moi. Je n'aime pas la façon dont je perds du temps à me juger quand j'écris.
D'accord. Et qu'est-ce que tu détestes ?
Moi qui n'aime pas la façon dont j'écris.
Le regard que tu poses sur toi quand tu es en train de poser un regard sur toi.
Ça, c'est très
énorme. Je sens que j'ai adoré cette interview. et pour finir, là ça va être très très simple, hein, j'imagine. En trois mots, qui tu es ? Trois mots. 1, 2, 3. Aujourd'hui, bien sûr, parce que demain, ça peut être différent.
Ouais, ouais. Fatiguée, contente.
Ouais.
Espiègle.
Ok, impeccable.
C'est un peu là maintenant, en ce moment.
C'est joli. Mm. Très bien. Tu es un auteur. avant toute chose.
Oui.
Est-ce que tu peux me dire rapidement ce que ça signifie pour toi d'être un auteur, cette condition, avant d'être un interprète ou
C'est la chose, je me suis rendu compte, que j'aimais le plus, que je préférais vraiment largement écrire à parler, quand bien même j'aime parler pour pouvoir justement écrire ce que je veux écrire. Mais le fait de l'exprimer à des gens. Après, des fois, t'es là, oh, c'était bien quand je l'écrivais, je suis dans ma chambre, c'était cool. Donc, c'est mon rapport à l'écriture, c'est un rapport fort, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui m'importe le plus, au-delà du fait de pouvoir... Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on est dans l'instant présent quand on écrit. On est à la fois dans la récolte d'événements passés pour en créer une matière nouvelle sur le papier, et en même temps dans une projection future de ce que ça peut être dans ma bouche et dit à des gens. Donc il y a un truc là, maintenant, qui est... j'ai un rapport avec l'écriture qui a un rapport avec le temps, quoi.
Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as des besoins particuliers? Ça peut être des conditions, ça peut être matériel, ça peut être... Enfin, te mettre en écriture.
En fait, ça dépend, parce que j'ai tellement de stimuli différents selon le jour, le sujet que j'ai envie d'écrire, ma motivation plus ou moins grande à écrire. Donc, ça, des fois, ça va être... Parce que je fais aussi de la production à côté. Et alors, passer d'un poste à l'autre, qui n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que j'écris beaucoup aussi dans la production.
Tu veux dire qu'il y a deux personnes en toi?
Au moins.
Qui discutent.
En tout cas, il y en a deux grosses. Il y a deux grosses personnalités.
Ok.
En moi, qui discutent. Et du coup, pour passer de l'une à l'autre... mais ça, je sais pas si ça peut s'écrire. Ça peut se dire. C'est, moi, j'ai la oui de mettre beaucoup. Mais justement pas pour écrire des blagues, ni pour...
Pour faire fermer la gueule à l'une des deux.
Ouais, à chaque fois. Je fume de la weed beaucoup, de façon très intense, à des périodes où je dois switcher vraiment fort d'une personnalité à l'autre.
Du coup, est-ce que je peux mettre ça dedans?
Moi, ça me dérange pas, ouais.
Moi, je suis plutôt pour, parce qu'il y en a un petit peu marre des tabous, surtout avec ça.
Ok. Moi, j'en parle sur scène et tout, aucun problème avec ça.
D'accord, et du coup, l'écriture, c'est quand même, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, enfin moi je le pense, une discipline, enfin c'est extrêmement rigoureux. Est-ce que tu es d'accord avec ça, et est-ce que tu en as une personnelle de discipline, en dehors de l'inspiration?
Non, on va pas se mentir, j'en ai pas, parce que j'ai appris aussi à écrire sur scène, c'est-à-dire que j'aime beaucoup arriver aussi avec des sujets au bout de 10 ans de scène. Je commençais à m'amuser à vraiment arriver avec des sujets, des listes de sujets que j'ai envie d'aborder avec les gens, sans avoir vraiment les blagues. Parce que mon but, c'est quand même de faire des blagues. Donc des fois, j'ai pas la chute. Donc je vais avec les gens, ça s'appelle du crowd walking. Je travaille vraiment en public.
Et elle arrive, ou pas?
Et ou pas. Ouais. Et comme j'ai dépassé la honte, la gêne ou la traque, l'angoisse de pas être aimé,
wow.
Ça donne des choses...
Bravo.
Ouais. Oh, sur scène, hein, je parle.
Ah, d'accord, tu m'as fait rire.
Non,
mais en même temps, c'est possible.
Non, mais j'y tends. Mais en tout cas, c'est impossible pour rester dans notre société, quoi. On a envie d'être. Aimer, c'est pas forcément d'ailleurs dans le sentiment du cœur, c'est dans le fait d'être attiré.
Ouais.
Et on est pas là pour vivre, je crois. Mais en tout cas, ouais, sur scène, j'ai plus ce besoin. Donc, du coup, j'écris beaucoup sur scène, et alors je suis très... je peux être flemmarde, parce que je sais que j'ai cette faculté à travailler sur scène, mes sujets.
Oui, donc
j'ai pas une régularité.
D'accord.
Ouais, j'ai pas une régularité incroyable, donc j'écris beaucoup, mais pas de façon organisée. Donc,
oui,
j'ai des tonnes de cahiers avec plein d'idées, mais ça peut être pendant 15 jours de façon intense, et pendant 15 jours, je vais pas du tout en faire.
D'accord.
C'est rare, hein, parce que je peux pas trop me permettre de faire ça quand même, mais... Enfin, voilà, c'est pas pour moi écrire une phrase ou deux dans mon cahier, c'est pas écrire, quoi. Donc, j'aime le fait dès que j'ai mal au poignet, là, je pense que j'ai écrit, quoi.
T'écris à la main?
Ouais, ouais, je suis une ancienne de ouf. Alors, j'écris évidemment, alors je fais les notes du tout, mais j'arrive pas à enregistrer mes idées, parce qu'il faut se réécouter et tout. Et, ça peut être intéressant, mais genre une fois par an, quoi. Bon, moi en tout cas. Donc, non,
ça se fait essentiellement en fait dans dans le fait d'éprouver ce que tu es en train de tester, quoi.
Ouais.
Ok.
Essentiellement. Essentiellement, c'est-à-dire que je vais mettre des mots, quoi. Dans mon carré, je mets plein de mots.
Et après, tu vas trouver.
Et je me rappelle. C'est bon, c'est que je sais. Souvent, quand on discute avec des gens dans la vie, on a une idée sur un sujet. Je sais pas, ouais, prendre, au hasard Nutella, t'as un avis sur l'événement qui s'est passé quand, quand il y a eu la promotion. Et souvent, quand tu entends parler du sujet avec des amis, dans un bar, machin, tu vas redonner ton avis. Et puis au fur et à mesure, il va y avoir une blague qui va avec ton avis. Et tu vas garder cette idée. Ouais, t'as pas besoin de l'écrire dans la vie de tous les jours. Et donc pour moi, une bonne blague, on n'a pas besoin de l'écrire. J'ai commencé, j'écrivais énormément en fait. Comme mon métier, j'ai commencé, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'écrivais, j'apprenais par cœur.
Oui, je vois très bien.
Voilà, et
tu
ensuite.
Tu gamme, quoi.
Ouais. Et après, j'ai pu me détacher de ça.
Pour c'est aller intéressant, vraiment... c'est presque une écriture dans l'espace, un peu comme les chorégraphes.
Oui, exactement, exactement. C'est vraiment, c'est exactement c'est ça. Comme les rappeurs aussi. J'ai une amie rappeuse qui, elle, des fois, écrit pas. Elle écoute la musique. Et puis elle fait la première phrase, puis la deuxième, puis elle recommence à la première pour aller à la deuxième, puis la troisième, recommence à la première pour aller jusqu'à la troisième, parce que c'est une continuité. Et d'accord. Donc c'est compliqué à faire en stand-up parce qu'il faut les faire à chaque fois, et des fois on a envie de prendre le cahier et puis d'apprendre par cœur. Mmh. Mais pour moi en stand-up, si on apprend par cœur, on fait du théâtre en fait.
Et d'ailleurs ça se voit assez vite.
Ouais.
C'est joli chez certains. Enfin, c'est émouvant parce qu'ils ont envie, mais ouais, il n'y a pas le.
C'est pas évident de le trouver. Parce qu'il y a aussi le risque du métier de se dire faut durer, il faut faire un truc calibré pour parler au plus grand nombre. Ouais.
Ok, super. Je sens que tu vas adorer cette question. Est-ce que tu te sens, alors au sens large, pas forcément, pas surtout pas politiquement, mais est-ce que tu te sens engagé? C'est-à-dire. Dans ton métier, engagé pour toi dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, comment tu véhicules ton image, est-ce que pour toi c'est une forme d'engagement?
Oui, pour moi c'est une forme d'engagement, c'est une conséquence quoi, l'engagement est une conséquence pour moi et pas le moteur. Je suis engagé dans mon métier parce que je l'aime et que je, ma discipline, particulièrement le stand-up. Parce que je suis très engagée dedans. Pour le coup, je fais un documentaire sur le stand-up.
Je l'ai vu, il est fantastique.
Merci beaucoup. C'est cool. Voilà, je suis très engagée dans mon métier. Parce qu'en fait, je suis née dedans en même temps. Donc, j'ai grandi avec le stand-up. Et je vois le potentiel du stand-up sur les jeunes Français, ce que c'est, le public. La façon dont ça peut faire réfléchir une communauté, une population à des sujets de façon totalement... décalé. C'est assez intéressant ce qui se passe, je trouve. Il y a un espèce de club, pas de club de lecture, mais de philo avec le stand-up dont on ne se rend pas trop compte. Quoi. C'est pas le slam non plus, pas genre des gens qui viennent déclamer leur tristesse, que j'adore, mais on n'est pas dans la recherche de la même émotion. On est dans une recherche vraiment de continuité, d'avancer, de réfléchir, enfin, personnellement en tout cas.
Par rapport au slam, je trouve que c'est vachement moins... Enfin... La forme est moins introspective, c'est-à-dire que le stand-up, il y a une vision beaucoup plus panoramique de la société qui va vers l'humour, évidemment, mais des fois pas que. Et le slam, c'est plus l'individu qui va un petit peu s'exposer.
Et justement, dans le stand-up, c'est très introspectif, souvent.
Oui, parce souvent, que ça parle toujours de vous.
On va souvent,
oui.
Moi, en tout cas, je vais souvent chercher en moi pour aller à l'universel. Et c'est la leçon, pour moi, que tout le monde doit comprendre avec ça, c'est-à-dire... Si j'arrive à te faire rire avec mon plus intime, parce que ça te touche, parce que ça te parle, parce que tu le vis aussi, parce que nous sommes les mêmes, et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a un truc avec le slam là-dessus sur l'introspection qui est...
Mais je parlais juste de la forme finale, c'est-à-dire que le slam, il y a un côté sans filtre.
Oui,
c'est introspectif et puis c'est ça qu'on met sur la table.
Oui,
souvent dans les scènes slam, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas vraiment de vrai travail de... En tout cas, dans la forme d'universalité.
Oui, je comprends.
On arrive et c'est aussi la beauté du slam.
Oui,
alors que
ça,
stand-up,
le... oui,
il y a une transposition qui est hyper forte, qui va vers l'humour et qui, du coup, même si on sait qu'au pied de la lettre, ça peut être vrai ce que tu dis à ton public, mais on ne le prend pas comme ça.
Ouais, c'est vrai. C'est une façon d'écouter le slam, je pense aussi, qui fait ça.
Ouais.
C'est-à-dire que comme... Enfin, on n'en sait rien. Hein. Moi, j'imagine que des gens écoutent comme moi, donc il y a... ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des trucs très plombants comme ça qui paraissent de l'ordre de l'introspection, justement, très personnel, sans aller chercher l'universel parce qu'il n'y a pas le rire. C'est le rire qui est trompeur. Tout dépend le rire qu'on utilise. Il y en a tellement des milliers. On peut très bien aller chercher la même chose qu'avec le slam, mais c'est ce que je fais beaucoup d'ailleurs. C'est pour ça que je dis c'est pas si loin que ça.
C'est pas loin, oui, c'est vrai.
La différence, c'est vraiment, je crois, l'objectif même du slam ou du stand-up. Je crois que l'objectif du slam, il sait qu'il n'y en a pas, en fait. C'est pour ça, moi, j'ai ma première scène tous les temps, pour faire de l'humour, c'était une scène de slam. Parce qu'ils m'ont dit, en fait, tout est slam. Comme tout est jazz, tu vois, c'est un truc...
Bah, en fait, à la base,
y a
le
plus
slam...
de calibre, quoi. Ouais.
Mais c'est pas le même objectif et c'est pas le même contexte. Le slam, à la base, c'est une scène ouverte de poésie. C'est-à-dire que le public devient acteur et ça tourne. Ouais. Une énergie qui tourne.
C'est exactement ça.
On écoute, on est susceptible. Voilà, le stand-up, on vient voir quelqu'un qui tient, on est chez la personne. C'est pas la même démarche.
Mais quand même, il y a cette recherche de carrière que nous, on peut avoir quand on fait un comedy club à plateau. C'est pas la même chose déjà. Ouais. Bon, j'ai l'impression que. Dans le slam, c'est l'instant présent qui compte terriblement, alors que nous, c'est plus notre personne, pour le coup. Mm. Pour le coup, je trouve que dans la finalité, on est beaucoup plus égocentré, en fait.
Ouais, je sais pas. Et surtout que le slam, il y a un verre offert après, quoi. Ouais. Donc, il y a plus de candidats.
Ouais. Mais nous, on est au chapeau, nous, on a de l'argent et tout. On a de l'argent et des bières.
C'est pas mal aussi. Ok. Est-ce que tu as un fantasme artistique lequel? Ou est-ce que tu en as eu un qui a été assouvi?
Presque. J'ai fait un spectacle avec des musiciens pendant 2 ans, qui s'appelait Free, c'était juste avant Monsieur Shirley.
Ouais.
C'était un fantasme que j'avais, mais du coup, dans la réalité, les fantasmes ne sont jamais les mêmes. Donc du coup, j'ai envie de réassouvir ce fantasme mieux que la première fois.
C'est non, ça, c'est être avec de la musique sur scène.
Ouais. Il y a un truc avec la musique qui me plaît beaucoup. Donc c'est plus un show, c'est plus un one-woman show qu'un stand-up en soi. Un spectacle événementiel avec de la musique, ouais, j'aime beaucoup ça.
D'accord, donc c'est plus ou moins assouvi quand même, même si t'es pas hyper satisfait.
Oui, non, c'était pour la blague un peu quand même. D'accord. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que je veux vraiment le refaire, j'ai vraiment envie de le refaire dans quelques années avec plus d'argent, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire de pas pouvoir assouvir ses rêves simplement matériels.
Et puis l'orchestre philharmonique, évidemment.
Voilà, non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, je voulais vraiment. Je me suis dit 3 musiciens, ça, j'en voulais 100. Quoi. Ouais. C'est là où je vais payer ces 3-là, on verra.
Ouais, je comprends. Mais du coup, non, on n'en a pas le temps. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as rencontré comme principale galère dans toutes ces années de carrière? Que tu as considéré comme soit des obstacles que tu as contournés? Enfin, qu'est-ce qui t'a plombé?
Très honnêtement, là, tout de suite, comme ça, là, maintenant, de façon un peu abrupte, je vais dire. Un manque. Alors, je ne sais pas si. Il y a plusieurs facteurs. Je vais pas commencer par le début. Le fait d'être noir, je crois que...
Oh, mais on va pas recommencer avec ça. J'avais promis de pas poser de questions sur la couleur.
Ah bah oui, mais c'est moi qui le dis.
T'as pas l'habitude.
C'est moi qui le dis. Non, je n'aime pas les questions sur la couleur, mais pour le coup, faut être honnête. Quand les choses sont là, elles sont là, faut pas prendre des détours. Mais c'est pas genre, je suis noir, il y a du racisme. C'est pas du tout ça que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est que je viens d'une famille un peu... pas parce qu'ils sont noirs, d'ailleurs, mais parce qu'ils sont pauvres, déjà de base. Donc, fait partie de ces gens qui, comme on est des familles pauvres, on sait qu'il n'y a pas de.
Quand si tu y vas, backup, tu vas
quoi.
Seul, quoi.
Ouais. Pour tout, de toute façon.
Mmh, pour tout. Ouais.
Donc, il y a un truc un peu hyper flippant dans la façon d'aborder le monde, la vie, tout le temps, parce que t'es sur un fil, quoi. Donc, il y a ça. Ensuite, le fait d'être noir, bah, c'est assez logique, c'est-à-dire qu'on est en France. Mon père est arrivé, il avait 17 ans, même si sa mère est alsacienne et que mon grand-père est ivoirien. Mais toujours est-il qu'il est plus ivoirien quand il est arrivé ici, etc. Donc il avait une autre culture, une autre façon de voir les choses. Il n'a pas d'ancêtre ici. Ce qui fait qu'en fait, tu sens vite que il n'y a pas de réseau, c'est-à-dire on n'a pas fait des grandes écoles. J'ai des copains à moi qui arrivent dans le stand-up, ils sont tout jeunes. Ils font oui, j'ai un copain qui va chez les Arocs, machin, t'es là. Mais d'où vous connaissez tous ces gens? Ah, mais vous êtes blanc, c'est ça le truc! Et t'es là, waouh, ok, ça va très vite pour eux, pour ça. Tout simplement parce qu'il y a aussi un truc de reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire que même moi, il y a des collègues à moi avec qui je m'entends très bien, qui sont dans mon documentaire, et qui ont proposé du travail à des gens qui jeunes qui viennent d'arriver, qui m'ont jamais proposé, parce que ils n'y pensent pas. C'est-à-dire je comprends l'idée de ne pas pouvoir se projeter dans l'autre. C'est pas du racisme. Mais c'est la conséquence du racisme qu'on a inculqué aux parents de ces gens-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut encore quelques générations pour qu'on oublie vraiment la couleur et qu'on puisse se reconnaître les uns en les autres, peu importe nos visages. parce que là maintenant il y a internet, vraiment faut que ça change.
Ouais, mais en même temps c'est...
Mais voilà, voilà la plus grande difficulté pour moi, parce que il y a qu'une issue possible, c'est devant. Faut pas s'arrêter pour faire une pause. Même si on le peut, on n'est pas au courant. C'est aussi ça. Moi, je l'apprends aujourd'hui que j'ai le droit de prendre des vacances, j'ai le droit de... Parce qu'il y a, voilà, il y a toujours deux cas de figure, je trouve. Il y a ceux qui claquent toute la thune, qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent, qui veulent continuer à grimper et avoir encore plus d'argent pour jamais redescendre, parce qu'il y a cette peur-là. Et puis, il y a les gens comme moi qui vraiment font à la flemme. tu vois, et donc... vont plus dire bon bah, allez, je vais monter une société, je vais faire des trucs, je vais mener. Voilà. Il y a une génération là de gens comme moi qui avons décidé de rentrer et on prend des chemins super longs où je perds énormément de temps sur l'écriture, énormément de temps sur tout ce que je pourrais faire en spectacle et en même temps la fatigue que ça m'a apporté à mettre quelque chose à la scène qui est hyper intéressant pour le stand-up, parce que je suis dans une authenticité de l'ordre de je gagne des années entre guillemets. Je me sens assez...
Oui, puis les fondations sont solides. C'est-à-dire c'est que ça. Ton chemin, avec ce que tu dis, je vois qu'il devient structuré. Enfin, c'est hyper clair.
Exactement, ouais.
C'est plus dépendant en fait. Du désir des autres. Enfin, ouais, tu avances avec ton empire.
Mais je crois que j'ai fait mes 10 ans de carrière en poirier, quoi. Et que là, je suis en train de me mettre sur mes pieds à moi et pas le sol des autres.
Mais ça change tout, quoi. Parce que, avec ce dont tu parlais de l'histoire de réseau, enfin, de toile d'araignée de départ, il n'y a rien. C'est un désert, quoi. Et c'est vachement tisser, intelligent de faire ça.
Et ce qui est cool, c'est que là, en tissant, je me rends compte qu'il y a plein d'autres gens qui sont en train de tisser aussi. Et qu'on se reconnaît entre nous. Et qu'on peut s'entraider. Et il ne s'agit pas que de noirs, mais il s'agit de femmes aussi. De la communauté LGBT. Moi, je suis finalement au croisement de plein de communautés. Et je me rends compte que c'est des cas isolés souvent qui finissent par tisser leur toile et on se retrouve et on fait une grande toile en fait.
Et du coup ça peut être au départ une sorte de difficulté d'être au croisement de plusieurs choses et de se sentir vraiment dans aucune. Et avec un chemin, ça peut être une très très grande force. Bah, ça peut même être la clé.
Ouais. C'est difficile. L'idée c'est que la difficulté... C'est ça que j'apprends le plus à gérer, d'ailleurs c'est comme ça que j'arrive à mettre sur les pieds, c'est que c'est dissocier la difficulté de la douleur, quoi. Et c'est ça parce qu'on peut faire un mélodrame de sa vie et se dire que c'est et beaucoup le font et en souffrent et du coup ça devient terrible et la vie devient un enfer, quoi. Moi je suis passé par là alors que j'avais pas du tout, pour toute ma vie j'ai jamais eu ce rapport au racisme, à la paranoïa. C'est vraiment mon travail. Depuis que je fais ce travail, je suis là, mais il y a un truc, quoi. Il y a un truc.
Parce que tu fouilles dans toi aussi. Exactement. Donc tu trouves.
Et complètement. Et je découvre des choses qui pouvaient. Et l'humour m'a permis de prendre du recul de façon plus légère que si j'avais fait un autre taf, quoi. Je crois. Donc c'est ma chance.
Et de te faire gagner peut-être un peu en thérapie, non?
Ouais, non, j'en ai fait quand même un peu. Mais c'est vrai que je crois que ça m'a fait perdre du temps avec les gens. Dans les fausses pistes.
D'aller bosser à la poste, je pense que le chemin, il est plus. D'accord. Justement, tu viens juste d'amorcer le sujet. L'état des lieux de ton, on va dire, de ton réseau. Tu dis il y a une espèce de toile qui se tisse. Ce serait quoi l'état des lieux pour toi actuellement?
Se voit de loin.
Ouais.
On s'en rapproche de plus en plus les uns des autres. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et je dis il y a Internet, mais c'est vrai que c'est pas con. Internet est en train de changer énormément de choses. Ça pouvait me faire peur au début, cette surproduction de nouvelles technologies et tout ça. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que déjà, tout est en ordre. Et qu'il y a des choses positives. Quand il y a du négatif, il y a du positif, quoi. Et qu'est-ce qui est le positif? Ben, c'est le fait que les gens puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas isolés. Sur plein de mini-sujets.
Est-ce que tu sens des interactions, par exemple, entre le réseau du stand-up, de l'humour, même au niveau de l'écriture, et les autres?
Au-delà des domaines de métier, je crois que les gens sont en train de se... Tu sais, on manque de transcendance actuellement. Et je crois que là, les gens sont en train de recréer une nouvelle forme de transcendance. Je sais pas comment expliquer ça de façon claire. Non, l'idée est en gestation, c'est pour ça surtout. Il y a des trucs auxquels je suis réfléchi comme ça. C'est pas encore bien posé dans ta tête. Mais je crois que les gens se réunissent par valeur de plus en plus, quoi. Je vois des... Ou alors c'est peut-être mon monde à moi, j'en sais rien.
Non, je pense pas, parce que si tu sens ça, c'est que ça doit être vrai.
J'ai cette sensation, en tout cas, que...
Donc ça communique dans les secteurs.
Et de plus en... Alors encore une fois, je pense que dans mon univers, dans ma vision du monde, dans ce que j'ai cherché à attirer vers moi, je vois de plus en plus de gens assez éveillés, en fait. Tu vois, je pense d'être poussé dans les retranchements et dans un nouveau monde, là, parce qu'on y est depuis un moment quand même. Ça a révélé chez des gens des choses, je trouve, de l'ordre de la spiritualité, enfin pas de la spiritualité, enfin, tous ces mots sont un peu périmés.
Ouais, mais je vois très bien, de la conscience surtout.
Ouais, de la conscience, de l'éveil, ouais.
Oui, oui,
ouais, d'un certain éveil, ouais.
Oui, c'est pas, sans partir dans un délire ésotérique, je vois.
C'est ça, c'est ça. Et voilà, il faut juste que ces gens fassent confiance les uns les autres, parce que les blancs aussi, ils sont pas bien en ce moment, pour plein de choses.
Moi, je suis hyper bien. Hein.
Ouais, toi, du coup. Tout et plein de noirs sont pas bien non plus. Mais dans mon milieu, quand on parle du stand-up, etc., sur les sujets, est-ce qu'on doit parler ou pas de ce qu'on pense du racisme, de ce qu'on pense. Et, tu vois, des fois, parce que le sujet, l'écho serait tellement plus fort si c'était des blancs qui parlaient du racisme vis-à-vis des noirs et des arabes, et pas les arabes et les noirs qui parlaient que de ça entre eux. Et souvent, les blancs hésitent sur scène à le faire, parce qu'ils se disent pas légitimes.
Ils sont pas légitimes, exactement.
Et c'est totalement faux. Mais tellement faux.
Bien sûr. Ça
est tellement dommage.
C'est ami, évidemment. Mais il y a une espèce de censure sur ça.
Et donc voilà, il y a une maladie un peu générale qui est en train de se guérir, je trouve. Doucement, mais sûrement.
C'est un trois idées reçues sur le métier. Trois clichés qui te gonflent, quoi.
Le métier de.
Ouais, ouais, ouais.
Qu'on est les copains des gens. Moi, je suis la copine de personne, je suis pas d'amis.
Merde.
Non, non, mais ça, c'est vrai que c'est chiant. C'est...
Oui, une appropriation.
Mais c'est normal en même temps, quand tu montres à la télévision d'une certaine façon où tu fais tu fais ça, les gens ils vont faire bah elle parle comme ça tout le temps. Et en fait, c'est vrai que tu donnes une énergie qui n'est pas forcément la bonne. Au début, moi, c'est plus celle que je donne aujourd'hui.
Ouais.
Je pense que je suis plus près de mon propre de moi-même. Et donc, il y a un truc un peu plus cool qui se passe avec le public où à la fin, tu vois, soit je suis pas en train de forcer mon sourire, il y a un truc naturel qui se passe entre nous qui est plus cool. Donc, c'est forcément. C'est jamais la faute du public, entre guillemets. Mais le côté être disponible pour les gens et pour leur caméra et pour rien, je trouve ça.
C'est un cliché, quoi.
Non, mais c'est chiant.
C'est chiant, oui.
C'est chiant parce que c'est penser qu'on est des produits. C'est plus qu'un cliché, c'est une croyance, quoi.
Ouais.
Effectivement. Un autre cliché sur les humoristes.
Que vous improvisez peut-être aussi, non? Enfin, j'entends vachement
ouais,
ça, moi.
Ouais.
Genre, c'est pas travaillé, parce
ouais.
que moi, je sais que c'est travaillé.
Mais ouais, c'est tellement écrit. C'est tellement écrit, effectivement, les gens pensent qu'on parle comme ça. On est venu, les mains dans les poches,
ouais.
On sort de la maison. Oh, tiens, j'ai pensé
c'est
à ça.
C'est fou, hein, j'ai plein de gens qui...
En même temps, tu dis, on serait des génies de ouf. Et en même temps, tu te dis, putain, vous lisez pas beaucoup, ça veut dire. Parce que vraiment... Non, mais tu vois, si tu lis un peu des livres, tu sais à quel point c'est dur d'aligner plein de phrases les unes après les autres, qu'il y a une cohérence, une rythmique. Il y a forcément un travail pour que la musique soit là pour toi et que tu puisses elle puisse t'emporter. Donc pour moi c'est ça qui moi c'est terrible parce qu'en même temps je suis très populaire comme personne, j'aime beaucoup, je veux dire je m'assois avec des SDF, on discute, tu vois, au-delà du fait que je sois humoriste. C'est en tant que personne, je suis comme ça, je suis populaire. En tant que personne, j'aime bien parler avec tout le monde. Mais dans ma salle, j'aime pas voir tout le monde. Il y a des gens, je suis là, j'ai pas envie. Parce que tu vois qu'on n'est pas d'accord clairement. Mais j'ai pas envie qu'ils rigolent la même blague. Parce que je me dis, on ne peut pas être d'accord pour rigoler, tu vois. Bon, c'est avec l'âge que je commence à penser comme ça. Parce qu'avant, j'aimais tout le monde, justement. Et en fait, j'étais déçu par les gens. Donc après, c'était là, bon, je vais voir peut-être le monde un peu plus, de façon plus réaliste. Et je l'ai bien vu. Je disais, mais j'aime pas les gens. Putain, c'est ouf. Comme j'aime pas les gens, j'avais du bien de le dire. Parce que tu sais, tu te mens à toi-même, la petite fille, ouais,
bah,
bien polie.
T'aurais pu me le dire alors, quand je t'ai demandé ce que t'aimais pas les gens, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Les humoristes, c'est quand même un comble.
C'est vrai que j'aime pas les gens. Mais non, je pense que la plupart des humoristes détestent les gens. En fait, c'est pas qu'on les déteste, on en a tellement peur. Tu sais, c'est comme un chien, un petit chien comme le mien qui va s'attaquer à un gros chien. Mm. On pense qu'il est hargneux, il a juste très peur en fait. On a très peur des gens. Et c'est pour ça qu'on essaye de créer une connexion avec eux à travers des mots et des idées. Pour exprimer notre vision du monde. Parce que c'est de l'autisme, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est une forme d'autisme dont je me sors grâce à la production et la weed pour faire à chaque fois et après je repars. Mais c'est ça, c'est une peur viscérale des gens. Donc le cliché, c'est de penser qu'on est des gens hyper simples, hyper sociables,
hyper open,
dans l'intimité, quoi. Qu'on est des. Qu'on danse sur le sol toute la journée en faisant des jus de fruits. C'est vraiment genre tellement l'air. C'est-à-dire que je pense que, bah, comme tous les êtres humains, mais les humoristes particulièrement, ceux qui font beaucoup de sport, ceux qui font énormément attention à eux, c'est comme une drogue à l'envers. C'est vraiment genre, je sais que je peux chuter à n'importe quel moment, il faut vraiment que je reste en connecté avec le monde. Et une conscience plus aiguë de ça. C'est-à-dire qu'on est tous foutus pareil, mais on est ultra sensible.
Ah non, on n'est pas foutus pareil.
Je pense qu'on a tous une base commune, et puis qu'après...
Ah oui, après, c'est chacun peut trouver ses armes, effectivement, pour relationner ou pas, d'ailleurs.
Enfin, chacun se façonne, surtout vis-à-vis de là où il a grandi, comment, quel espace, avec qui ou quoi, quelle année. Ça fait beaucoup d'éléments.
Est-ce que t'as un genre de journée type?
Non.
Pas de rituel? C'est jamais pareil?
Juste en ce moment, j'ai une mauvaise habitude, là, parce que j'ai repris le smartphone, de regarder le smartphone en me réveillant, ça me saoule. C'est une mauvaise habitude, mais je n'ai aucun...
T'as pas de journée type?
Maintenant que j'ai le chien, ça fait un mois et demi.
Les sorties.
Sortir. Dès que je sors, c'est ma journée de type qui pisse, qui mange.
D'accord.
Mais non, je n'ai.
Ok.
C'est, pour moi, les journées n'existent pas déjà. Donc je fais exprès, je fais semblant de comprendre ce que vous racontez. Là, sur lundi, on se voit lundi, on se dit, ok. J'ai rien compris. Parce que plus ça va, moins j'ai une notion du temps. C'est terrible, quoi.
Mais tu sais que c'est plutôt pas mal, je pense.
Ouais, c'est cool, mais c'est vertigineux quand t'es prod. Ouais. Quand tu vois, je me raccroche à mon agenda Google, mais il me reste que ça. Parce que c'est pas évident. C'est cool, mais c'est parce que je suis beaucoup dans mes idées, dans mes projets, dans mes textes, dans tout ça. Et du coup, c'est une continuité de ouf, quoi. Tu peux plus te fier à.
Il te faudrait un esclave de l'agenda.
Hein?
Il te faudrait une esclave de l'agenda.
Ah mon dieu, non.
Qui gère le temps.
Il faudrait que je la gère aussi.
Elle en est où ta libido artistique?
Elle est bien, là. Elle est cool. Là, en ce moment, c'est cool. Je pense que c'est le printemps. On sortait de l'hiver, on ne pouvait plus, je pense, le froid. Glaçait nos idées. Et ça commence à décongeler, là, sérieusement, pour tout le monde. J'ai l'impression, d'ailleurs, une vague générale, là, dans le stand-up actuellement. Un peu comme tous les ans. Donc, bonne libido artistique, créatrice, je dirais, parce que je suis tant dans la prod que dans les textes. J'ai plein de bonnes choses qui arrivent, plein de projets.
D'accord, il y a un truc qui la stimule en particulier ou non? Ça dépend.
Le fait de jouer sur scène presque tous les soirs.
Ça, c'est un
stimulant. Il faut que j'entende des rires ou pas d'ailleurs, pour continuer de travailler.
D'accord.
Je ne suis pas sur des souvenirs trop vieux. Ouais, il faut que je joue pratiquement tous les soirs.
Ok. Qu'est-ce qui te fait rire chez les autres?
Qu'est-ce qui me fait.
Genre, franchement, rire quoi.
Ah, mais il y a beaucoup de choses, mais. En fait, c'est tout ce qui me fait pas rire quand on se moque de moi, tu vois. C'est souvent ça, les trucs qui ont envie de taper les gens. C'est le truc où t'es énervé pour quelque chose, mais d'un point de vue extérieur, c'est marrant. Je sens que la personne est vraiment en colère seule, enfin voilà, qu'il n'y a rien. La chute, je resterai toujours. Je crois que c'était un des premiers rires que j'ai eu dans ma vie. Quelqu'un qui chute, c'est tellement marrant.
Ouais, c'est vrai.
C'est horriblement marrant, c'est vraiment, les vieilles particulièrement.
C'est cruellement marrant.
Un vieux, une vieille, vraiment, une dame.
Ah ouais,
ouais, parce qu'il y a
tous ces autres. C'est dur, ouais, j'ai l'image, non, c'est pas...
C'est beau. C'est pas non, pas ça. Une éclate, pas l'éclate, j'ai mal, c'est genre, je me vautre.
Mais une vieille qui se vautre, elle a forcément mal.
Non, moi j'imagine vraiment le truc du dessin animé, tu vois pas le... tu vois, non, c'est la petite vautrade, oh, petite vautrade, c'est marrant, parce que tu vois toutes les... Et je pense même la personne, si elle avait la force, elle rirait aussi. En tout cas, moi, si je suis vieille... Et ça me ferait beaucoup rire de tomber. Parce que t'as déjà plus de force.
Non,
t'es à bout et t'es là, sérieusement, quoi. Je suis tombée.
Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup.
Tu vois, après, je sais que les gens peuvent pleurer pour peu. Moi, il y a plein de choses qui me font rire. Le plus. Enfin, les choses les plus. Les enterrements me font beaucoup rire aussi. Parce qu'il y a quelque chose de tellement égoïste, toi, dans le pleur. Tu vois, il y a un truc. Moi, j'ai pleuré. Tous les enterrements que j'ai fait, j'ai pleuré comme une merde. Mais j'ai souvent pleuré parce que j'étais fatiguée de toute ma journée ou toute ma semaine. Et j'en profitais parce que...
Tu relâches, quoi. C'est une bonne stratégie en même temps. Tu lâches tout.
C'est que la différence avec les autres, c'est que j'analyse mais ce que je fais.
Ouais.
Je suis presque sûre que la plupart des gens pleurent pour la même chose. Ah, mais non, on veut plus. Mais non, quelqu'un qui meurt.
T'en es pas jusqu'à t'incruster aux enterrements juste pour lâcher la pression.
Non, okay. Non, je suis pas psychopathe. Mais un jour, j'ai constaté qu'effectivement... Et une fois, j'ai très beaucoup pleuré... pas par rapport à ma fatigue personnelle, mais par la personne qui partait, c'est parce que aujourd'hui je peux en rigoler de cette scène. C'est en fait, c'est... parce que le rire ou le pleur, ce sont des réactions, ce ne sont pas des trucs où il faut mettre un jugement dessus. Il n'y a pas du négatif ou du positif à rire ou à pleurer. Donc, Mais du coup, le rire appelle les larmes et inversement, quoi, je trouve.
Oui, oui, bah c'est complètement lié.
Toujours, quoi.
Bien sûr.
Donc du coup, un truc qui m'a fait pleurer un jour, quand je le regarde avec le recul, bah, c'est marrant. Parce que en fait, j'ai pleuré parce que j'ai vu une boîte tomber dans la terre. Enfin, c'est ça qui s'est passé. Non. Parce que ton cerveau, et c'est exactement la même provocation que le rire, c'est lié à l'absurde. Ça veut dire que... On donne une information pour créer une blague, il faut donner une information sérieuse au début, le sujet, et après la chute, c'est le renversement, quoi. Le truc où tu t'attends pas du tout et ton cerveau du coup fait pas logique, maman.
Ouais.
Et ben les pleurs, c'est pareil, pas logique, triste.
Ouais, ouais, une espèce de bug qui se fait.
Et
ouais,
ce
ouais.
bug, est, tu sais, il est genre, je m'émerveille là-dessus, quoi. C'est sur le bug.
Je comprends.
Parce que c'est ça l'instant présent, c'est le moment où il se passe plus rien.
Ouais.
C'est ce moment où il y a plus le temps, il y a plus l'espace. C'est juste le là. De et la personne
et
dans le regard.
Comme ça, il y en a tout le temps. Quand tu observes, tout le temps.
En fait, c'est un continuum de ça, la vie.
Ouais, tout le temps.
C'est un continuum de ça, de gens qui essayent de vivre, tu vois. Là, je me fais rire, le transhumanisme, c'est complètement ça. C'est genre, on essaie de réparer ce bug permanent. C'est impossible, c'est ça qui fait qu'on est là. C'est ça qui est incroyable, la matière est créée par ce bug. Enfin.
Ça occupe en tout cas.
Ouais, j'ai fait un peu une Bogdanov là, mais.
Non, mais c'est bien. T'inquiète, on n'a pas l'image. C'est ce qui compte. Comment tu gères la notion de ta notoriété? Ton rapport à ça, ton image, est-ce que... Comment tu vis ta notoriété?
Il y a eu plein de stades. Il y a eu plein de stades. Et le début, t'es trop content. Je sais pas pourquoi. En fait, il y a un truc inconscient de l'ordre de la culture qu'on t'a imposé. La télé, c'est bien. Être connu, c'est super.
Ouais.
Mais voilà. Et après, il y a l'agoraphobie. Après, il y a la haine. Après, il y a...
Il y a le meurtre.
Après, non, il y a la pensée, évidemment. Non, non, il y a... Et puis après, il y a l'incompréhension totale de qui je suis, où je suis, qui c'est, tout ça. Parce que je peux pas... Enfin, c'est ma personnalité, parce que j'en parle avec des potes humoristes, et on est tous différents. Je peux pas juste accepter l'information comme une information normale, parce que je vois le regard des gens. Et il y a un truc qui est pas normal dans la plupart des regards. Quand je fais de la télévision grand public, France Télévisions, je parle notamment, je parle pas d'un truc de niche où on va vraiment écouter ton travail, et donc ta rapport avec des gens qui sont...
Différent. Oui, qui sont sûrs ce que tu
ouais,
fais,
là, je parle de ouais, là, c'est ton énergie comme des vampires, quoi. Et j'étais là, non, je sens qu'on prend des bouts de moi, et il faut que ça s'arrête, vraiment. Parce que j'ai cette difficulté en plus, d'une manière générale, que je travaille, je crois bien, mais à mettre des barrières avec les autres. Parce que je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai une pensée très rastafarienne, je dirais. Je ne savais pas, mais il y a ce côté, genre, ma porte est toujours ouverte. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu ne respectes pas ma maison comme tu respecterais chez toi, je peux être très violente. Donc il y a ce truc un peu... avec le public qui a été comme ça, après je trouve la pensée. Après je suis violente parce que je me sens pas respectée.
Envahie quoi.
Ouais. Il y a des petits viols en fait, des petits viols mentaux. Là, les gens se peuvent. Et parce qu'eux-mêmes se sont certainement violés quoi, dans leur âme et tout ça. Donc j'ai vu beaucoup de morts vivants, ce que j'ai appelé des morts vivants. Et après, là je suis en réapprentissage d'amour. Mais de l'autre, en fait, de manière générale, je ne parlerai pas le public par rapport à moi, c'est de l'être humain.
Avec le grand A, quoi.
Ouais, donc de moi, donc de l'espace-temps dans lequel je vis, qui, pour moi, donc, est un map sur lequel on est. J'essaie vraiment de rester, donc de pas m'envoler, parce que je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui ont des réflexions de l'ordre de... Ah, tout ça est une illusion incroyable. Et du coup, partir en vrille... C'est vraiment de rester entre les deux, tu vois. Sinon, vraiment, tu vas me retrouver à métro à la chapelle, sans chaussures, en train de demander du crack. Mais l'idée.
J'ai l'image.
Tu vois. Et c'est très possible, vu mon physique. J'ai tout ce qu'il faut pour y aller.
Tu feras pas ça à part de la chapelle.
Alors, personne ne me dira, c'est bizarre, c'est vrai.
Non.
Et donc.
Ouais, je vois.
Mon métier me permet ça.
Avant, du coup, tu dis au début, tu es contente. Avant d'être contente, tu avais ce désir-là, d'être connue.
Je crois.
Ouais.
Ouais.
D'être visible, en tout cas.
Ouais.
D'accord.
Ouais, mais plein de raisons pas forcément bonnes.
On s'en fout des raisons.
Ouais, non, mais il y en avait des bonnes et des pas bonnes, au final. Je les triais au fur et à mesure, quoi.
Des raisons, quoi.
Oui, ouais. Il y avait des raisons.
D'accord.
Ouais, complètement. Mais ce que je voudrais, pour le coup, bonne et pas bonne, je mets un jugement parce que.
Ouais.
parce que à un moment donné j'ai émis des forts jugements pour pouvoir changer de direction justement dans ma façon de voir.
Mais en même temps, même des raisons pas nobles, genre, enfin ça c'est mon point de vue, hein, je sais pas pour contredire ce que tu viens de dire du tout,
ouais.
Genre besoin de reconnaissance, revanche à prendre, enfin pas de bénédiction de tes parents et des merdiers.
Oui, c'est ça qu'il fallait dépasser en fait.
C'est des bonnes. Ouais, mais c'est des bonnes raisons parce que.
Mais bien sûr, parce qu'à ce moment-là, c'est moteur.
Quand tu prends conscience,
c'est moteur à ce moment-là.
Est-ce que tu as une obsession ?
Plusieurs.
Quelque chose.
La weed.
C'est une obsession ?
Ouais.
Le fait de plus en avoir, d'en avoir, tout ça. Enfin, c'est quelque chose. Ouais. D'accord.
C'est une obsession, pas. En fait, je peux ne pas en avoir, mais ne pas fumer, etc. Mais c'est une vraie obsession quand même. C'est-à-dire comme quelqu'un qui fume des cigarettes, un fumeur occasionnel, qui va te dire non, mais moi je suis pas fumeur. Mais si, tu penses à la clope.
Mm.
Tu penses. Mm. Parce que tu sais que la petite soirée que tu vas faire avec tes copains, tu verras la
bière. Il te faut des clopes.
Mm. Ouais. Donc l'obsession, elle est là.
Et dans le travail, t'en as quelque chose qui t'obsède tout le temps, qui revient?
L'obsession de réunir les gens, je crois. Ouais, si, j'ai quand même cette obsession de devoir réunir les gens, parce que ça me bouffe aussi. Parce que les gens ne veulent pas se réunir, pour la plupart. À part cette nouvelle génération, justement, de gens qui commencent à penser comme.
Tu veux dire réunir les fédérés, les gens, n'importe quel gens?
Mmh.
Bah du coup, t'aimes les gens.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je les déteste.
D'accord.
Mais... il y avait un autre truc un peu de l'ordre de... En fait, quand tu... Comment expliquer ça? Tu découvres le monde. Je pense que notre vision du monde, elle évolue toujours en fonction des âges, de nos expériences et tout ça.
Mm.
Et mon métier, en plus, avec le fait d'être exposé médiatiquement, fait que j'ai rencontré de plus en plus de gens de façon rapprochée, une intensité comme ça, qui fait que ça m'a étouffé. Et donc... J'ai traversé un moment de dégoût de ça.
Compris.
Tu vois, c'est plus ça, quoi.
Mm. Mais comme toute révolution, ça implique des extrêmes.
Si tu manges beaucoup de flambi, si tu adores le flambi, tu vas manger tous les jours, et un jour, tu vas être dégoûté, quoi.
Ouais, puis ça peut être la vie, un peu.
Ouais, vraiment, tu vois. Donc, c'est tout ça le danger.
Avec le flambi. Ouais, c'est très, très bien. Enfin, manger beaucoup de gens.
Ouais, exactement. Mais c'est vrai, en plus. Et c'est pas bon, d'ailleurs.
Mais tu es cannibale, là.
Mais ouais. C'est moi, le mort vivant. C'est moi qui mange les gens.
C'est quoi ta philosophie de vie? Ta ligne de conduite, un truc, tu sais que si tu t'éloignes de ça, c'est pas bon pour toi.
Non, c'est peut-être de pas vous... Ma ligne de conduite, c'est de pas m'en donner, en fait. Vraiment, je crois que c'est ça. C'est de pas me donner... par exemple, je pense, religion, je vais dire, j'ai pratiqué la religion et tout, j'ai pratiqué énormément de choses, je me suis beaucoup intéressée au bouddhisme, je pratique quelquefois des mantras, etc. Mais je veux absolument pas m'enfermer dans quelque chose, cette sensation qu'il faut l'air branche, laisser lâcher prise, quoi. Et c'est ça mon travail, ma ligne de conduite, c'est de lâcher prise. Parce que je m'accroche beaucoup, comme beaucoup de gens, à la matière.
Oui, puis en tant que productrice, pour le coup, ça existe quasiment
l'inverse. C'est ma dualité, mais c'est aussi mon exercice méditatif, un peu. C'est de réussir à être là sans être là. Tu vois.
Bah je vois, je fais aussi pareil.
Très bien. Formidable.
Ouais, c'est ça. J'écoute.
Oui, c'est ça, la ligne de conduite, je pense.
D'accord. Tu pourrais me donner une, deux ou trois collaborations phares pour toi, marquantes, des choses
que j'ai faites.
Ouais, avec qui et quoi?
Ben, Jamel Debbouze, je dirais que c'est une collaboration marquante parce qu'en fait, je pensais pas que ça allait l'être, et quand je l'ai rencontré, ça l'était. C'est la seule personne dans le métier. Et pourtant, j'aimais ses sketchs quand j'étais jeune et tout, mais.
T'avais pas projeté forcément sur lui, quoi.
Non, rien. Sur personne, en fait. Mais pour le coup, quand je l'ai rencontré, il y a eu quelque chose d'assez fort énergétiquement. Pour moi, évidemment. Mais enfin, pour le coup, c'était vraiment genre. Très. Il m'a marqué. Il m'a énormément marqué énergétiquement. Tout ce que je peux te dire.
Ouais, je vois. Elle a duré? Collaboration, c'était un one-shot?
Ouais, j'ai fait le Jamel Comedy Club pendant longtemps, quand même. Je fais la troupe, on a fait la tournée. Après, j'ai fait le Marrakech du Rire. J'ai présenté une émission avec eux, ça s'appelait Jam Session, je crois que c'est de la musique. C'est là où je me suis demandé que ça pouvait être possible, mon rêve d'enfant, d'allier la musique à l'humour. J'ai fait le Comedy Club Live, qui était une émission de radio sur le Move, avec Yacine et Dedo, toujours avec le Jamel Comedy Club. J'ai fait son DVD Made in Jamel, il y a eu beaucoup beaucoup de choses.
D'accord, donc oui.
Que j'ai pu toucher grâce
au
à Jamel.
Crainte,
quoi.
Ouais.
Ouais, pour le coup, ouais.
Qu'est-ce qui te révolte?
Franchement,
quand, plusieurs choses, j'ai mis au pluriel s'il y a plusieurs choses.
En tout cas, là en ce moment, quand t'es pris la main dans le sac et que tu dis encore que c'est pas toi, ça me rend dingue.
Ok. Donc le fait de pas assumer quoi.
C'est tellement plus classe d'assumer.
Ouais.
Enfin, je comprends pas ce truc qui consiste à dire. C'est la maladie du monde quoi. Bon, bon. Je vais garder ça.
Ok. Tu m'as dit que tu étais à la SACEM. Mm-hmm. Est-ce que tu déposes tout à la SACEM? Tu es à la SACD aussi? Comment ça se passe pour les humoristes?
Moi je suis uniquement à la SACEM.
Uniquement à la SACEM?
Ouais. Je sais même pas si on peut. En fait, on peut pas déposer les mêmes textes aux deux organismes.
Non, et du coup, quand c'est un spectacle, genre Monsieur Shirley, c'est pas des sketchs, c'est un spectacle.
Si. Non, non.
Tu déposes les textes à part.
En fait, on dépose à la SACEM, on dépose les œuvres séparément.
Ouais.
Tout ce qui est dans le spectacle. Mm-hmm. Et après, on dépose le spectacle. Où on déclare toutes les œuvres qu'on a déposées d'abord au préalable.
Tu parlais de réseau tout à l'heure. Est-ce que tu sens une forme de transmission? Est-ce que toi, par exemple, tu es dans une forme de transmission avec, ça peut forcément avec des jeunes, hein, mais avec voilà, des gens de toutes les générations. Est-ce que c'est important pour toi de transmettre et comment ça se passe?
En fait, c'est important pour moi de transmettre et de réceptionner aussi. Et c'est ça dont je parlais quand je parlais de réunir. Les gens se réunissent beaucoup, évidemment, pour aller sur une terrasse de café, pour faire une soirée, et les gens se réunissent tout le temps. Mais se réunir vraiment, discuter vraiment. Ça, c'est compliqué, hein, même chez les artistes.
Surtout chez les artistes.
Ouais, je discuter avec eux, connaître leur cœur. Ils ont beaucoup de mal à se livrer.
Ouais.
Ils ont peur. Et du coup, je m'ennuie beaucoup. je m'ennuie et puis tu passes par la folle du village et moi j'aurais été sur le bûcher je pense très vite. À une époque il pourrait être ma sorcière, elle fume de la weed, elle a un chien, elle est noire, fait beaucoup.
Et elle ouvre son cœur.
C'est ça quoi, elle veut parler avec nous quoi. En fait c'est à dire que j'ai beaucoup de mal à connecter tout de suite au travail avec les gens.
T'as besoin que ce soit humain d'abord.
Ouais.
Bah ouais,
et du coup et je persiste quand même dans mon métier, c'est-à-dire que ça ne m'a pas quand même détruit. Ils ont failli me détruire plusieurs fois avec leur façon de penser. Parce que je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas faite pour ça. Puisque je n'ai pas la même façon d'aborder les trucs. En fait, ce n'est pas vrai. C'est que tout le monde est comme moi à la base, mais tout le monde ferme sa gueule. Ouais. Donc, la seule truc qu'on a différent, c'est peut-être la force et la confiance qu'on m'a donnée dans mon éducation. Pour dire... ou dans l'éducation, ou c'est guère, si on parle de réincarnation,
d'une continuité.
Mais de pas lâcher l'affaire en fait, de pas de c'est con, en fait ça me brûle l'intérieur, c'est terrible de comment dire, de d'un exemple, on va te dire, un gars à la télévision il va dire, écoute Charlie, j'ai un super truc pour toi, c'est génial. Je fais non mais attends, avant il faut que tu saches un peu ce que je fais en ce moment, tu peux pas, enfin en fait je me mets un peu à sa place à ce moment là je me dis, moi en tout cas
j'aimerais
si j'avais une émission, j'aimerais savoir qui tu es, où tu vas. Et si tu ne veux pas le savoir de moi, ça ne m'intéresse pas. Même un entretien d'embauche pour bosser en caissière, on te demande plus de trucs sur ta vie. Mais toi, juste parce qu'on t'a vu à la télévision faire un truc...
Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, l'impression de te connaître. Que...
Ouais, et c'est eux-mêmes qui alimentent ça. C'est pour ça qu'il y a des gens après qui regardent leur télé qui ressentent ça et qui comprennent ça. C'est nous-mêmes, en faisant des trucs comme ça, qu'on cultive ça. C'est pour ça que... j'ai quelques personnes comme moi qui disent des fois quand il y a des gens qui viennent sans dire bonjour ou on dit déjà bonjour, ça va, c'est cool, on est des êtres humains, on va mourir.
La température quoi.
Tout est cool. Et puis tu me demandes j'ai le temps, non j'ai pas le temps en fait. Et tu vois, essayer de faire comprendre que t'es un être humain et que t'as des émotions. Sans que ça soit violent pour eux, qu'ils fassent tout ce qu'ils racontent. Faut vraiment que ce soit désamorcé, qu'ils fassent juste, oh merde j'étais con. C'est dommage, c'était un instant cool et c'est vrai que qu'est-ce qui m'est arrivé? Déprogrammer les gens. C'est une déprogrammation qui est délicate parce que vraiment les gens ils arrivent avec un truc et tu les fais tomber des fois de très haut. Bah, des fois je vois des gens tomber quoi. On me dit mais c'est bien la télé, je fais pas du tout quoi. Et ils sont là. Si vous attendez tellement pas cette réponse,
je vais. Enfin,
il faut pas me poser la question. Enfin, on me pose la question si vous attendez pas la réponse.
Exactement. Non mais t'as raison. Est-ce que tu te sens utile dans ce que tu.
De plus en plus.
Propose.
De plus en plus.
Ouais.
Avant, pas du tout. Parce que c'est pour ça que je faisais des blagues qui me ressemblaient pas. Ou j'exprimais des choses en essayant de combler le vide et tout. Mais là, ouais, de plus en plus.
De quelle manière? Quand est-ce que tu vois que tu te sens utile? Comment ça te revient?
Ah, par les messages des gens, la communauté LGBT surtout, les jeunes femmes qui qui se sentent à qui ça fait du bien. Moi je me rendais pas compte en fait en faisant mes textes, je les écris pas du tout, encore une fois c'est une conséquence, je les écris pas du tout en pensant à dire ah là je vais bien lutter mais plus en disant ouais j'ai vécu un truc qui m'a ok j'en parle. Et de voir que des gens disent putain ça me fait du bien de voir quelqu'un de connu qui en parle de façon cool, qui s'en fout.
Décomplexé, ouais.
Et je dis pour ça, moi l'idée de parler à la base de mon homosexualité, c'était pour dire juste ma meuf plus tard, sans qu'on me dise quoi. Hein. Mmh. Voilà, juste maintenant je ne me parlerai plus de ça. Parce que c'est vrai qu'en France, on était dans cette période il y a 5 ans avec le mariage pour tous et tout ça. Ouais. De changement, il fallait assumer. C'était maintenant quoi, il fallait y aller quoi. Il fallait assumer, effectivement. Ça m'énerve de le dire parce que j'avais pas l'impression de le cacher. Mais.
Et ça te fait quoi? Ça te procure quoi comme sensation de te sentir utile? Oh, on me dit pas rien.
Non. Ce qui me.
Ça doit te faire quelque chose.
Ce qui me fait quelque chose, c'est de me sentir inutile. Là, j'ai plein d'émotions.
D'accord.
Mais tu vois, me sentir importante, je pourrais avoir des émotions. Me sentir utile, je me sens vraiment en place. Parce que c'est pour ça que je tends vers ça. Je me sens pas totalement utile. Mais quand tu t'en vraiment utile, il y a des gens comme ça, il y a des profils de gens qui sont toujours à aider, à être sympa avec tout le monde, ils sont bien, parce qu'ils sont utiles. Voilà, je te donne l'image la plus claire. Et tu sens qu'il y a cette légèreté avec la vie, là, et il n'y a pas de je suis très content ou je suis très triste, je suis là. Tu vois.
Ah, mais t'as dit un truc super juste, quand tu le sens utile, c'est que t'es en place. Ça t'aligne, quoi.
Ouais.
D'accord. Est-ce que t'as une sensation de victoire sur quelque chose, une grande victoire pour toi?
Pas encore.
Point. Tu sens qu'elle va venir? Ouais. Ah d'accord, t'es sur un gros dossier et t'attends une
victoire? Je suis sur un gros dossier.
Génial, je te le souhaite.
Ouais.
Une anecdote marrante. Ou pas marrante d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit marrante, ouais. On s'en fout complètement. Une petite anecdote là.
Une petite anecdote?
Ouais.
De quoi
de je sais pas.
Parce qu'une anecdote, c'est une histoire en fait.
Ouais, mais rapide.
Parce que j'aime bien le mot anecdote.
Ouais, mais j'adore ce mot. Une anecdote.
C'est Blanche Gardin qui dit je vis pas d'anecdote, je vis que des trucs intéressants. C'est très drôle.
C'est compatible.
C'est vrai.
Elle est géniale cette meuf.
Alors, les anecdotes. Non, je sais pas, mais juste là en ce moment, comme je viens d'adopter le chien, j'ai des réactions. On m'a dit, tu vois, c'est trop bien d'avoir un chien, tout le monde va te parler, tu vas te serrer des meufs de ouf. En fait, j'ai que des petites vieilles ou des gens chiants qui me disent, fais un bébé.
Les vieilles sont des meufs de ouf, potentiellement.
Ça dépend.
Attention, non, c'est raciste de dire ça.
T'as vu des vieilles de nos gens, hein. Je parle des gens qui ont des
cheveux. Moi, j'avais dit à Levisson, il y a des vieilles.
Je parle. Je parle pas de personnes âgées.
T'as pas pris un chien pour pécho, quand même.
Non, j'ai pas besoin d'un chien. Au contraire, c'est plus handicapant que tu veux.
Et du coup?
Et alors, c'est trop drôle parce que les réactions des gens sont juste chiantes, quoi. Là, pour le coup, les gens m'énervent, tu sais, vraiment, c'est genre, c'est un bébé. Parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte d'une chose, c'est que c'est pas les premiers à te poser la même question et avoir la même conversation toute la journée sur le chien. Et,
Il s'appelle comment? Vous l'avez quand? Tout ça?
Et tu lui dis, mais tu vas faire quoi avec ces informations après? Tu vas où avec ça?
Bah, quelque part.
Non, mais tu vas où avec ça? C'est-à-dire que c'est pas genre, toi qui me demandes, on passe une heure, là, machin, je pourrais comprendre. Mm. Mais les gens que tu croises qui caressent le chien, qui te demandent,
mais comment? Mais tu sais que la plupart des êtres humains fonctionnent comme ça, c'est-à-dire? Bah, c'est une accumulation d'informations qui
va mourir. Mais c'est ça qui est dangereux, en fait.
Un vide.
Oui, mais c'est dangereux, c'est vrai que tu fais des connexions.
C'est très dangereux. Bah, s'il commence à parler de ton chien à leur voisin qui en a rien à foutre.
Non, mais ouais, enfin, tu crées des connexions, là, il n'y en a pas.
Bah, c'est comme parler du temps, tu vois ce que je veux dire?
Non, je pensais plus au fait de.
C'est un prétexte, le
chien. Tu penses? Non, je pense vraiment qu'ils kiffent le chien. Parce que quand tu les vois, ils sont vraiment en mode. Et ça, je le comprends.
Oui, c'est vrai, en mode dégâts.
Très attirés par un chien.
Mais comme avec un bébé, des fois.
Grave. Mais un bébé, on ne dit pas c'est un bébé, tu vois, on voit bien que c'est un bébé. Un chien, on te demande son âge, et tu vas faire... En fait, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que...
dit... Je vois trop, en fait, je te vois dans le parc. Comme les gens qui... Non, mais j'existe.
Non, mais moi, au contraire, ça par contre, j'adore. Parce que du coup, les gens me calculent moins, et genre, il y a même des gens qui me reconnaissent, mais qui vont d'abord vers le chien.
D'accord.
Et du coup, c'est cool, ce qui me caresse pas moins, c'est parfait. Non, mais... Ce qui est drôle en fait, c'est que donc les gens, ils me disent c'est un bébé, je dis non c'est pas un bébé, il a 6 ans. Ah bon? Et voilà, donc à chaque fois, et on dirait un bébé, je me dis. Je dis oui, bah il a 6 ans. Ah bah j'en ai quand même fou ça, parce que je pourrais donner maximum 2 ans.
Super.
Et ben voilà, qu'est-ce que tu veux, je réponds à ça ou pas? C'est d'accord. Ça, on va où avec ces informations? On va où exactement?
Bah là, on est dans l'absurde, tu vois. Il y a une recherche vraiment de contact qui est hyper forte, puisqu'elle se met en acte et en même temps, il se passe rien.
Non, il se passe rien.
C'est assez magique.
Des fois, c'est bien le silence. On peut se regarder en silence. Moi, ça me dérangerait moins. Je trouve ça moins gênant. Quelqu'un me regarde comme ça pendant 2 minutes, que quelqu'un qui vient qui l'aide. Putain, on a un fou de quel âge il a, putain. Casse-le et va-t'en, quoi.
Ou alors tu réponds un truc complètement à côté. Est-ce que t'as bouffé la veille, quoi? Il a quel âge? Alors ça, la verte,
c'est
oignon. Allez, c'est la fin. On est genre le 1er janvier. Tu prends quoi comme résolution? Et ne me dis pas, continuez la weed.
Arrêtez la weed à chaque fois. Tous les 1er janvier, je me dis ça.
C'est pas vrai. Mais pourquoi?
Tous les jours 1er janvier, je me mens à moi-même. Non.
Là, ce serait quoi ta résolution?
1er janvier, là... Ça fait longtemps que j'ai arrêté les résolutions, hein, donc je vais t'en inventer une. Hein.
Ouais.
Arrêtez la weed. Non, je rigole. Non, mais aller faire plus de sport, là, par contre. C'est très bien.
Voilà, c'est bien, ça.
Donc, en fait, mon conseil, c'est de vivre les choses, de ne pas avoir peur de les vivre. Elles vont être douloureuses, mais c'est comme ça qu'on en tire des leçons. Parce qu'on remarque un truc, c'est que quand on est enfant, jeune, adolescent, les parents, ils disent des conseils. Ils disent ouais, arrête d'allumer l'électricité, machin, et tu comprends pas pourquoi ils le disent, faut que tu le vives, tu souffres de ça, pour dire ah, ok. Donc en fait, les belles phrases, elles servent juste à se dire ah, c'est vrai, quand tu l'as vécu toi-même. Et tu t'es obligé de le vivre d'abord, par toi-même. Donc n'ayez pas peur
de vivre
ce que vous avez à vivre, si c'est ce que vous ressentez, quoi. Parce que c'est là où vous allez apprendre les meilleures leçons, en fait. Et que vous pourrez faire des belles phrases à d'autres plus jeunes,
comme ça. Ok. Et pour finir, un vœu. Ce que tu souhaites ardemment.
Pour moi?
Ouais, pour toi, pour tout le monde, pour quelque chose, ouais. Si tu as le droit à un vœu, là, tu fais quoi comme vœu?
Que les gens n'aient plus besoin de faire des vœux.
Bon, ben merci. C'est super cool.
Merci à toi, désolé pour le speed de fin.
Non, ça va. Merci beaucoup.
Il est 19h13, happy hour, et heure pour nous de sortir de la peau sans filtre et lumineuse de Shirley Soignon. Merci d'avoir fait le voyage et à très bientôt pour le prochain.